Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie et la fondation HSBC pour l'éducation vous invitent à suivre une émission consacrée à une association qui propose un programme pédagogique innovant destiné à de jeunes collégiens en difficulté. L'association MAP. Apprendre aux nouvelles générations à regarder la ville autrement, à construire le vivre ensemble, tel est l'objectif poursuivi par l'association MAP. M pour maquette, A pour architecture, P pour patrimoine, E pour environnement. MAP, qui a été créée par Françoise Deleul, ingénieure en bâtiment, qui a développé cette méthode pédagogique consistant à créer d'abord manuellement, puis à intégrer dans un deuxième temps le travail autour de l'écrit. Françoise Deleul précise.
Cette méthode, je l'ai donc nommée du rêve à la réalité. Le rêve, c'est vraiment créer un endroit de rêve où on aimerait vivre, où là, pendant cette création, je peux toucher la géographie, l'histoire, les maths avec les échelles, et puis terminer, quand on pose les pinceaux de cette fabrication, passer au français. Quelquefois, le français fait beaucoup, fait peur. Et quand on leur demande d'écrire un scénario autour de cette maquette, faire vivre la maquette avec des mots, c'est extraordinaire. On me dit souvent « Non, madame, j'ai pas envie d'écrire ». Et l'histoire vient très, très rapidement par la suite.
Razouane, et ça m'a plu parce que les pompiers parlaient d'affaires, comment construire une maison, comment faire un emprunt. Si on ne paye pas, qu'est-ce qui va nous arriver? Moi, dans la vie, peut-être je vais faire architecte. Parce que ça me plaît. Un architecte, il dessine, c'est un maître de l'œuvre. Il dessine comme ça un peu, pour montrer la maison. Et j'aime bien regarder les immeubles qui sont beaux. S'il n'y a pas de belles choses dans la vie, il n'y a rien.
L'objectif essentiel poursuivi par cette association étant de redonner confiance à ses élèves, souvent en échec scolaire, en leur communiquant autrement le goût d'apprendre et d'acquérir certaines connaissances. Canal Académie et ses équipes de reportage sont allés sur le terrain, à la rencontre de l'association MAP. Jean-Marc Loiseau, professeur de français et arts plastiques.
MAP nous permet de fonctionner en projet, pour donner du sens. Ça nous permet aussi de rêver, de créer en art plastique et de créer des textes aussi. Le but, c'est de ne pas leur apprendre les choses dans le vide. Et MAP nous permet de nous relier à la réalité. Donc on part du rêve, mais on va toujours vers la réalité parce que ce sont des enfants qui vont vite être dans le monde pratique. Ce sont aussi des enfants qui ont des difficultés au niveau du vocabulaire et de l'écriture. Et là, ça permet justement de donner un texte où ils se sont investis déjà avant au niveau corporel. Les arts plastiques, c'est je bouge dans la classe, je prends de la peinture, je mets mes mains dedans, je vais laver mes mains, je prends les pinceaux. Et après, quand on prend un crayon pour écrire, c'est beaucoup plus simple que de donner un sujet bateau, décris-moi ce que tu as fait pendant tes dernières vacances.
L'activité manuelle captive et permet de dépasser les appréhensions liées à l'écrit. Par ailleurs, l'articulation du projet autour d'un plan relief permet d'intégrer diverses notions. Les mathématiques avec les échelles, la géographie avec les courbes de niveau, le français pour l'écrit, l'histoire pour raconter comment s'est construite au cours des siècles la ville dans laquelle on habite, et avec le concours de quel grand personnage historique, sans toutefois oublier de faire appel à l'imaginaire, à l'imagination de ces jeunes esprits en développement et formation. Françoise Deleul, ingénieure en bâtiment, conceptrice du projet MAP.
Quand on parle de la réalité, c'est ma vie dans la ville. J'ai un petit peu fait intervenir des cuisiniers, des grands chefs cuisiniers, deux nutritionnistes qui expliquent un peu comment se nourrir, la nourriture hier et aujourd'hui. Et là aussi, nous avons testé à Clichy, un cours, vraiment 2h30 sans aucun bruit, donc un accueil important, un échange avec ces deux nutritionnistes, une en provenance de Suisse et une Besançon. Et je crois que ça s'est très bien passé avec les aliments, le train des aliments, la digestion et puis comment se nourrir pour être en forme.
Evelyne Aymar, nutritionniste.
MAP, c'est ma ville, c'est ma cité, et dans ma ville, il y a ma vie. Donc on a pris la globalité, ma ville et la santé. Donc dans la santé, nous avons réfléchi avec les enfants, qu'est-ce qui est important pour eux dans leur santé, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient en bonne santé. Donc il y a dormir, il y a bouger, et on les a amenés petit à petit à réfléchir sur qu'est-ce qu'on mange. Car dans la vie, on est ce que l'on mange. D'où l'importance de la nutrition et l'implication du nutritionniste dans le projet.
Et puis, des historiens viennent aussi intervenir au niveau de l'histoire de leur ville, mieux connaître cette ville. Peut-être mieux la connaître pour ne pas la détruire.
Élise Rossi, qui est professeure de mathématiques, mais aussi d'histoire et de géographie, témoigne.
En tant qu'enseignant, c'est très important d'avoir des gens de l'extérieur qui viennent nous parler un petit peu de leurs spécificités. Le projet MAP nous a apporté beaucoup de choses, tant au niveau de l'architecture, de l'art, comprendre notre ville, comment la mettre en valeur. Donc après, nous, ça nous a permis de rebondir sur des histoires du français, une réflexion sur ce qu'est une ville, comment la mettre en valeur.
Nous intervenons en priorité dans les quartiers dits sensibles, dans les classes SECPA, dans les classes relais.
L'association MAP intervient auprès de 600 élèves chaque année. Des élèves âgés entre 12 et 13 ans qui sont en classe relais ou classe SECPA, des classes qui correspondent à des dispositifs d'accueil d'élèves en décrochage scolaire et en voie de marginalisation dans le 19e arrondissement de Paris à Clichy. Brigitte Laurier, directrice SECPA, collège Jean Massé à Clichy-la-Garenne, et Didier Chabat, qui est coordinateur de classe relais aux orphelins d'Auteuil, nous explique.
C'est un projet que nous tenons sur l'année, avec une fréquence d'intervention bimensuelle. Mais j'allais dire que progressivement, Françoise Deleul a fait partie de notre équipe à Jean Massé à Clichy, dans la mesure où ce projet qui était initialement prévu sur une année a été reconduit d'une année sur l'autre. C'est la cinquième année que Françoise travaille avec nous. Donc elle est accueillie avec beaucoup d'impatience finalement. Une orientation en classe de SECPA est une décision d'une commission. C'est une équipe pédagogique pense qu'un enfant aurait bénéfice à être dans une classe de SECPA. Un dossier est monté. C'est un dossier très complexe et très complet qui fait appel au médecin scolaire, à l'assistante sociale, à la conseillère d'orientation psychologue qui doit tester l'élève et bien sûr qui s'appuie également sur le dossier pédagogique de l'enfant. Ce n'est pas un enseignant seul dans son coin qui peut décider d'une orientation. Il y a tout un partenariat avec les parents qui doivent accepter cette orientation qui est souvent mal vécue puisque c'est une orientation par défaut. On est orienté en SECPA parce qu'on ne réussit pas en enseignement ordinaire et parce qu'on n'a peut-être pas les capacités à réussir dans l'enseignement ordinaire. Ce n'est pas un choix au départ.
Didier Chabat, qu'est-ce qu'une classe relais ?
Alors, une classe relais, c'est une classe qui accueille des élèves plus ou moins déscolarisés, qui ont des problèmes sociaux, des problèmes parfois psychologiques, des problèmes forcément scolaires, et que l'on accueille pendant une durée de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, pour les, on va dire, remettre à niveau et leur permettre, en petits groupes, avec une équipe choisie de professeurs volontaires, eh bien, de s'orienter, de continuer dans leur scolarité.
Mais comment ces classes relais s'inscrivent-elles dans ce que Brigitte Laurier nous a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la SECPA ?
Nous sommes voisins, il faut le dire. Nous avons un public identique, souvent parallèle, sauf que la différence existe entre le temps que nous avons pour accueillir nos élèves. Ma voisine accueille les élèves durant une année. Nous les accueillons pendant un trimestre.
C'est une remise à niveau.
C'est une remise à niveau, c'est aussi pour les resocialiser, pour les rescolariser, pour leur redonner confiance en eux, pour leur montrer que le monde des adultes et le monde scolaire n'est pas un monde ennemi du leur, et les aider à aller au bout de leur projet. À la fin d'une classe relais, ils reviennent dans leur collège d'origine, si ça se déroule par exemple durant le premier ou le deuxième trimestre de l'année scolaire, Et à la fin du troisième trimestre, ils sont orientés soit vers une orientation technique, une orientation professionnelle, voire un CFA, voire reprendre dans la vie active, tout simplement, selon leur âge et leur désir.
La SECPA accueille des élèves qui, à l'issue de la troisième, vont s'orienter sur un plan professionnel, une grande partie vers les métiers du bâtiment. Donc, ce projet MAP est un tremplin formidable pour sensibiliser tous ces enfants à tous les métiers du bâtiment, leur faire connaître tout le vocabulaire, toute l'infrastructure, toute la construction d'une habitation, quelle qu'elle soit. Ils sont très férus, j'allais dire, ils retiennent. Si on leur faisait un cours théorique in abstracto, sans le support de la méthode, pour leur parler des métiers du bâtiment, je ne pense pas qu'ils retiennent autant de choses. Donc finalement, ce projet que mène Françoise Deleule, qu'elle mène à partir de la sixième bien souvent, permet de sensibiliser ces enfants qui, à partir de la classe de quatrième, vont partir en atelier, avoir une première approche des métiers. Et particulièrement à Clichy, nous avons un atelier habitat, atelier bâtiment. Donc ils sont sensibilisés à ce qu'est le bâtiment avant même de l'aborder sur le plan beaucoup plus technique avec un professeur spécialisé.
Rappelez-nous ce qu'est une SECPA.
SECPA, c'est une section d'enseignement général et professionnel adapté. Adapté, les enfants sont moins nombreux que dans une classe ordinaire, en principe 16 maximum, et ils ont également en principe des enseignants spécialisés. Je dis en principe parce que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'enseignants spécialisés par rapport au nombre d'élèves que nous avons. La SECPA accueille les élèves donc de la 6e à la 3e. Elle accueille des élèves qui ont été en grande difficulté scolaire, grave et durable, d'après les textes. Donc ces enfants pour lesquels une orientation en classe ordinaire aurait conduit à un échec, à une grande souffrance, sont donc regroupés et bénéficient donc de la scolarisation de la 6e à la 3e. À partir de la 4e, ils ont 6 heures d'atelier avec un professeur de lycée professionnel et 12 heures en classe de 3e. Et notre objectif, c'est à l'issue de la 3e, qu'ils aient finalisé un projet d'orientation professionnelle que l'on travaille dès la 6e. Donc, fin de 3e, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent comment préparer leur diplôme, c'est-à-dire le CAP niveau 5.
L'association MAP est soutenue par la Fondation HSBC pour l'éducation. Cette fondation a été créée en 2005. Marine de Basler, directrice développement durable HSBC France, déléguée de la Fondation HSBC pour l'éducation, évoque et explique ce soutien.
La Fondation HSBC pour l'éducation a été créée en 2005, en fait au moment où le groupe en France adoptait la marque HSBC. Le groupe, où qu'il soit dans le monde, soutient des actions dans le domaine de l'éducation pour favoriser plus d'équité. On sait en fait que l'éducation, c'est un vrai facteur de paix, c'est un vrai facteur de stabilité de pays et c'est important pour HSBC, où qu'il soit dans le monde. Pourquoi HSBC choisit de soutenir dans le domaine de l'éducation des enfants milieux défavorisés ? C'est parce qu'on considère que si on doit participer à un monde plus stable, il faut commencer avec les générations montantes. En France, on a choisi un angle particulier, qui est la culture. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. On est dans un profil d'éducation qui est propre, qui est vraiment original par rapport à beaucoup d'autres pays dans lesquels on est implanté, puisque l'éducation est gratuite en France. Néanmoins, on sait qu'il y a de vrais écarts. La fracture sociale en France perdure et même s'accentue. En 2005, quand on a choisi la culture, c'était par affinité du groupe qu'on était à l'époque en France. On avait un prix HSBC pour la photographie, on soutient des jeunes talents photographes depuis une quinzaine d'années et on souhaitait, par le biais de la photo et de l'éducation, faire le lien entre les deux. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, 6 ans après, on se rend compte que plus qu'une affinité, plus qu'un moyen d'ouvrir les jeunes, la culture est un vrai moyen de les raccrocher à l'éducation. C'est vraiment de l'innovation pédagogique. Le projet qui est suivi aujourd'hui, MAP, en est vraiment une expression, je dirais, vivante. Ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est évidemment continuer à soutenir des projets comme cela, mais aussi commencer à porter notre voix à l'extérieur plus fort pour que l'éducation nationale, les instituteurs s'emparent de ce type de projet, se disent que c'est réellement un moyen de pouvoir lutter contre la fracture sociale et de raccrocher les élèves à l'éducation.
Séverine Coutel, coordination mécénat développement durable HSBC France, secrétaire générale de la fondation HSBC pour l'éducation, souligne maintenant un autre aspect de cette implication de la banque HSBC et de sa fondation pour l'éducation dans ce projet MAP.
Il y a également donc un autre critère qui a été très important pour justement choisir ce projet, c'est l'implication des collaborateurs dans le projet auprès des enfants. Dans tous les projets que la Fondation HSBC pour l'éducation soutient, nous demandons une implication des collaborateurs. Comment ça se traduit dans le projet MAP? Donc on a défini avec Françoise Deleu, la responsable du projet, comment les collaborateurs pouvaient s'impliquer. Vous en avez aujourd'hui une illustration avec effectivement deux collaborateurs volontaires qui viennent expliquer les métiers bancaires, leurs métiers autour de l'accession à la propriété. Donc auprès des jeunes qui vont venir dans les locaux de la banque. On organise également une deuxième mission donc avec une collaboratrice volontaire qui va organiser elle une visite autour des métiers de staff, donc dans des ateliers de staff, qui travaille en fait sur le plâtre, donc à Clamart. Pour nous, cette implication est vraiment importante pour permettre une rencontre et des échanges avec finalement deux mondes qui ne se connaissent pas forcément et qui vont apprendre à mieux se connaître et à mieux comprendre les difficultés des uns et des autres.
L'implication des collaborateurs d'HSBC est importante dans tous les projets soutenus par la Fondation pour l'éducation. C'est ainsi que Jérôme Charon et Aurélie Blanchard contribuèrent pendant toute une journée à apporter leurs explications sur les métiers de la banque à de jeunes collégiens reçus dans les locaux d'HSBC. Nous écoutons Aurélie Blanchard, qui est animateur coaching des ventes HSBC France.
J'ai trouvé le projet vraiment intéressant en ce sens où effectivement on sortait du contexte collège des enfants et qui n'ont pas forcément un parcours aussi facile que d'autres. Et effectivement, j'ai fait ma scolarité en grande partie dans un collège qui n'était pas facile et je pense avoir une carrière épanouissante, voire réussie. Et quelque part, on a un petit peu envie de transmettre ce relais. En plus, je pense qu'il y a un gros décalage entre l'image que peut projeter le banquier, notamment à travers les médias, et puis finalement notre métier tel qu'il est au quotidien, c'est-à-dire le banquier. Là, on était dans un projet immobilier, du rêve à la réalité. Finalement, le banquier est aussi celui qui va pouvoir dire non ou oui pour réaliser un rêve. Et finalement, leur transmettre ce message que le banquier est aussi quelqu'un qui peut accompagner pour accomplir le rêve. Et finalement, voilà, le banquier, c'est aussi quelqu'un de bien, quelqu'un d'accompagnant.
Un autre collaborateur d'HSBC qui s'est impliqué dans le projet MAP témoigne. Nous l'écoutons. Son nom, Jérôme Charon. Il est conseiller premier international HSBC France.
La première motivation, c'est de rendre à l'éducation nationale ce qu'elle m'a offert. Moi, je n'ai pas eu une scolarité particulière. J'étais dans un collège de province, un lycée de province, où tout se passait bien, où tout le monde s'entendait bien. Donc, je n'ai pas connu les difficultés que certains établissements ont en Île-de-France. Et quand on m'a proposé de participer à cette réunion, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça me faisait plaisir. Et parce qu'aussi, j'ai souvent eu dans ma carrière l'occasion d'avoir les parents de ces enfants comme clients. Donc, je sais ce que c'est d'avoir la joie de dire à une famille « Oui, on va vous accompagner dans votre projet d'achat ». Et j'ai aussi malheureusement eu le déplaisir de pouvoir dire « Non, on ne peut pas vous suivre ». Donc, je pense qu'il faut être pédagogue, de dire « Pourquoi on peut, pourquoi on ne peut pas ?» Je pense aussi que le terme banquier a été tellement galvaudé ces dernières années, c'est peut-être aussi pour dire on n'est pas tous comme ceux que vous voyez à la télévision, qu'aussi tout rêve est accessible. Donc après, il faut savoir mettre les wagons dans le bon sens, et puis on est là pour leur donner la main. Donc c'était l'occasion de donner la main, mais de rendre un peu ce qu'on m'a offert. J'ai trouvé que c'était un moment très ludique d'échange avec en face de moi des gens qui ne sont pas dans le métier, donc il fallait vulgariser la chose. Avec ma collègue, je pense qu'on y est arrivé. J'ai trouvé ça très agréable que les enfants soient participatifs, puisque beaucoup de questions ont été posées. Je pense que ce qu'on leur a expliqué a été bien compris, et je pense que moi aussi j'ai qui a compris qui ils étaient. Donc oui, c'était ludique, c'était marrant, drôle. J'en garde un très bon souvenir. On va recommencer demain.
Françoise Deleul, la conceptrice du projet MAP, ajoute.
Nous avons donc la chance d'être retenus par la Fondation HSBC qui nous donne de grands moyens concernant les métiers, entre autres les métiers, le banquier. Quel est son rôle? Car j'ai mis au point de l'achat du terrain à l'installation de la maison. Et là, les enfants me demandaient, me posaient beaucoup de questions. Et là, ils ont eu beaucoup de réponses aujourd'hui, par des vrais professionnels.
Nous avons demandé à Françoise Deleul de nous raconter comment s'est développée en elle cette idée du projet MAP.
Cette association loi 1901, agréée éducation nationale, très important, est née en 1990 suite à la copie du plan relief de la ville de Besançon. Cette ville s'est dotée de cette copie pour présenter aux habitants la ville au temps de Louis XIV. Pendant 15 mois, de grands maquettistes se sont retrouvés autour de cette maquette. L'original se trouve au musée des Invalides. Et là, le déclic, cette copie m'a donné vraiment l'envie de transmettre aux enfants beaucoup de choses. Il fallait absolument prendre cet outil pédagogique pour aboutir à une nouvelle méthode, apprendre autrement. J'ai présenté cette méthode à l'Éducation nationale, car je ne suis qu'une intervenante extérieure aux yeux de l'Éducation nationale. En fait, ces jeunes se sont très mal à l'aise dans leur immeuble et je voulais leur montrer tout simplement la construction, comprendre pourquoi ces tours se sont construites, comment nous allons les modifier et faire intervenir des architectes qui, eux, témoignent également de leur métier. Et nous travaillons très souvent avec la politique de la ville qui, en fait, interviennent et expliquent également à tous ces jeunes leur façon et leur intérêt de vivre autrement.
C'est ainsi que la Fondation HSBC pour l'éducation et l'association MAP ont eu le grand plaisir de recevoir un invité de marque en la présence d'Emeric Zoublena de l'Académie des Beaux-Arts. Emeric Zoublena, urbaniste, architecte de réputation internationale, à qui nous devons notamment le Stade de France, l'hôpital Georges Pompidou, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce grand professionnel avait accepté de venir partager sa passion pour l'architecture avec des collégiens de 6e, de 5e, de SECPA, section d'enseignement général et professionnel adaptée du collège Jean Massé à Clichy-la-Garenne. Emeric Zoublena évoque devant les micros de Canal Académie ses instants partagés avec ses collégiens qui lui ont rappelé la période où lui-même a été enseignant.
Ma période d'enseignement commence en 1969, c'est-à-dire après les événements 1968 qui ont jeté à bas l'ancienne école des Beaux-Arts, qui avait des tas de choses positives, mais qui peu à peu devait être reconstruite. Donc on m'a invité à faire partie du corps enseignant, ça m'a passionné et j'ai été professeur pendant 25 ans. Mais j'aurais pu continuer encore 7 ans, mais j'ai interrompu parce que, en 1995, avec mes associés, nous avions gagné le Stade de France. Je ne pouvais pas mener de front les deux choses. Alors l'enseignement, c'est passionnant parce qu'on rencontre des jeunes qui sortent du lycée. À un certain moment, j'étais professeur de jeunes gens qui avaient entre 17 et 19 ans. Et puis une autre partie la plus importante avec ceux qui allaient devenir architectes. C'est passionnant parce qu'on est confronté aux questions qui se posent, on est amené à leur apporter des réponses. Et puis surtout, on est confronté au dialogue avec eux. Parce que quand moi je faisais mes études, il y avait beaucoup moins de dialogue avec les professeurs. Là, c'était vivant, c'était après 68. Mais c'est vraiment un métier de passion parce que je vous assure que c'est fantastique de rencontrer des gens, de lire un programme, je l'ai dit, en rencontrant ces jeunes gens, et puis ensuite d'imaginer, d'organiser l'espace pour répondre à cette demande et puis d'aller au-delà. Parce qu'il y a des considérations, je dirais, fonctionnelles, techniques, économiques, qui vont, ça va de soi. Je veux dire qu'il faut qu'un bâtiment tienne debout, qu'il réponde à des demandes précises d'utilisation et puis qu'il reste à l'intérieur d'un budget. Mais je veux dire, c'est la partie, non pas la moins intéressante, mais celle qui ne traduit pas la passion qu'on peut mettre dans ce métier. L'autre, c'est essayer de transcender, de dépasser ces exigences très cernées, très cernables, pour apporter quelque chose de plus. Alors, on réussit. Ce sont des beaux bâtiments, et puis on réussit moins, ce sont des bâtiments banals. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que ça exige une passion, ça exige, au fond, d'aller au-delà de ce qui est dit. C'est-à-dire, à la limite, une fois qu'on a lu un programme, s'en abstraire, et puis dire au fond, mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi, et qu'est-ce que je peux leur apporter qu'ils ne me demandent pas, qu'ils ne formulent pas, mais qui est latent. C'est ça qui est passionnant. Donc ce sont ces magnifiques immeubles qu'on voit se développer dans des villes anciennes ou nouvelles. Il se trouve que mon père était d'ébéniste, donc ce n'est pas directement l'architecture, mais enfin c'est le monde des formes, c'est le monde où on travaille la matière et on en fait quelque chose, un meuble. En rencontrant les jeunes gens tout à l'heure, je pensais à une chose, la ville, et dans une certaine mesure l'architecture, c'est apprendre à vivre ensemble. Les hommes, que les hommes vivent ensemble, les hommes et les femmes bien sûr, apprendre à vivre ensemble, que les activités apprennent à coexister. Il y a eu une époque où on faisait une ville fonctionnelle ou fonctionnaliste, où on séparait les différentes activités, ça a été une erreur. Il faut apprendre à faire coexister les activités, à ce qui se crée, je pense que le mot est encore à la mode, la synergie, enfin bref, que la ville soit ville dans sa totalité. Et puis, que vivent ensemble les formes. C'est tout le débat sur faut-il des tours dans la ville ? Ou bien ne faut-il pas de bâtiments de plus de 7 étages ? Moi, je pense que c'est un vrai débat. C'est un vrai débat qui va au-delà de l'esthétique, qui est une notion de est-ce que des formes différentes, des styles différents, peuvent vivre ensemble pour participer à l'évolution d'une ville. Elle ne peut pas être figée. Ce serait absurde de dire que la ville qui a été qui s'est constituée au XVIIe siècle, elle restera figée au XVIIe siècle. Pourquoi pas le XVIIIe, pourquoi pas le Xe, pourquoi pas le XXe? Donc dans quelle mesure les responsables, les hommes politiques et les architectes, les urbanistes, peuvent apporter quelque chose qui sera un jalon de la ville? Puis ensuite au XXIe siècle, au XXIIe siècle, il y aura encore d'autres choses. Alors ce jalon, évidemment, il doit s'harmoniser avec ce qui existe, mais il doit aussi apporter quelque chose de nouveau, se projeter dans l'avenir. Je pense que c'est ça, c'est pas réconcilier au sens qu'il y avait un affrontement, mais c'est faire qu'on sente une forme d'empathie, de sympathie entre les générations, au travers des activités, les hommes, les formes, et les architectes sont les acteurs qui participent à cette constante transformation de la ville. Sont à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, ça c'est une autre question, mais qu'ils soient conscients de leurs responsabilités, ça absolument, absolument.
La responsable du projet MAP, Françoise Deleul, conclut par rapport à cette visite.
Et nous avons eu cette visite. Monsieur Zoblena, aujourd'hui, c'est vraiment réellement une chance auprès de ses élèves, car il leur a expliqué très bien la construction du Stade de France, et pour eux, c'était vraiment un terrain important. Et c'est vrai que regarder également ce monsieur se pencher sur leur maquette, leur petite maquette, montrer un tel intérêt, très belle journée pour tout le monde. Je pense qu'ils garderont un excellent souvenir de ce passage.
Les parents sont invités à intervenir pour expliquer leur métier aux élèves ou encore leur vie dans d'autres pays. Ces présentations sont valorisantes pour l'ensemble de la famille. Brigitte Laurier, directrice adjointe chargée de la SECPA du collège Jean Massé à Clichy.
Je voudrais vous parler d'une anecdote qui illustre totalement l'intérêt des enfants pour le travail que leur propose Françoise Deleul. C'était la première année où Françoise venait travailler chez nous. L'enseignante de la classe qui accueillait Françoise avait la charge de faire des textes et des dessins qui complétaient le travail de Françoise. C'était un vendredi après-midi, je passe devant une classe, la porte était ouverte, je n'entends rien et j'en déduis, tiens, la classe est sortie, elle est ailleurs. Non, les élèves étaient dans la classe avec l'enseignante et tellement fascinés et passionnés par ce qu'ils faisaient qu'on ne les entendait pas. Alors que malheureusement, les élèves de SECPA ont la réputation d'être des élèves qui sortent toujours de leur gant.
Didier Chabat.
Je ne dirais pas mieux. Et c'est vrai que lorsque l'on est à côté d'une classe relais où de temps en temps c'est agité, vous remarquerez l'euphémisme du jour, et lorsqu'il n'y a pas de bruit pendant quasiment 2 heures, ça veut dire que pendant 2 heures, des élèves qui sont considérés comme ascolaires, presque asociaux pour certains d'après leur dossier, pendant 2 heures, travaillent, découpent, peignent, collent, essayent de monter une maquette qui leur fera plaisir, ben, c'est un énorme résultat positif. C'est le plus beau cadeau qu'ils puissent nous faire.
Apprendre à aimer, à respecter sa ville pour ne pas la détruire.
J'ai très envie d'intervenir sur ce sujet, effectivement, parce que au-delà du projet, je veux dire, tel qu'il peut être rédigé et parlé, ce travail de maquette qui concerne les enfants dans la ville les incite à être plus citoyens. Personnellement, notre SECPA du Collège Jean Massé a établi un partenariat très intéressant et important avec la ville de Clichy et a sensibilisé ses élèves à leur environnement, au-delà de ce que je pensais. C'est l'occasion de leur présenter leur ville, qu'ils méconnaissent en général, les personnes qui y travaillent, l'histoire de leur ville, les métiers qui s'y pratiquent. C'est un projet qui va bien au-delà des limites que l'on a au départ.
S'impliquer dans sa ville, faire que sa ville devienne aussi un peu son histoire.
Oui, tout à fait, son histoire. Pouvoir aussi expliquer à leurs parents, c'est aussi une façon d'échange avec les frères et sœurs, les parents. Bien souvent, après le départ de l'historien, ils répètent, ils expliquent dans la famille un peu ce qu'ils ont appris l'après-midi. C'est souvent un échange en famille, parce que je reçois aussi des appels des papas me posant des questions sur l'histoire, sur le nom des rues.
Comme le disait l'architecte que vous avez reçu dans les locaux d'HSBC, Aymeric Zoublena, la ville, c'est avant tout comment bien vivre ensemble, en harmonie.
Tout à fait. Et ce travail dans la ville nous permet également de rencontrer des partenaires, des entreprises locales qui tiennent actuellement le discours suivant, c'est-à-dire former des jeunes à avoir un métier dans leur ville plutôt que de leur faire prendre le métro et aller faire le même travail à l'opposé de la ville de Paris.
Alors, par rapport à cette implication citoyenne, Didier Chabat ?
Bien, ça permet effectivement aux enfants de voir la ville autrement. Il faut dire que les élèves que nous accueillons habitent Paris, mais ils ne sortent pas vraiment de leur quartier. Et pour eux, je dirais aller à la Tour Eiffel, aller au plan relief, c'est quelque chose d'impensable avant de connaître Françoise Deleulle. Et on a fait, durant ces dernières années, des sorties scolaires où ils ont vu la ville autrement. Ils ont vu que ça pouvait être très beau, très agréable. Puis ce qui est agréable, c'est aussi de les faire rêver. C'est-à-dire qu'à travers ces maquettes, on leur demande du rêve. Et ils peuvent enfin s'exprimer dans le positif, et dans la couleur, et dans la joie. C'est très rare, c'est des mots qu'on ne trouve pas souvent, le mot joie, couleur et soleil, dans les dispositifs relais.
Pousser la porte du musée des plans reliefs pour une classe relais et pour une classe SECPA, là j'avais presque une petite larme parce que je ne pensais pas que ces élèves allaient écouter et regarder et en fait imaginer que Louis XIV aussi faisait des maquettes. C'était en fait une défense militaire, etc. Et qu'eux ont fait des maquettes pour s'évader, pour le rêve. Et là, ils se sont sentis et presque auteurs, créateurs. En sortant de ce plan relief, c'était extraordinaire.
Vous avez dû certainement en parler les uns les autres avec des psychologues, des psychothérapeutes. Quand on fait mal à sa ville, ça veut dire quoi ?
Faire mal à sa ville, je pense que pour ses enfants, ses élèves, c'est se faire mal à soi-même. Et ils montrent à travers ça un mal-être.
Ils ne regardaient pas leur ville réellement. Ils l'attribuaient, ils s'accaparaient pas à leur ville, c'était pour les autres et pas pour eux. Je pense qu'ils vont peut-être la respecter beaucoup plus. C'est vraiment mon objectif.
Découvrir des métiers auxquels ils ne pensaient pas, ou des métiers qui pour eux étaient sous-estimés. Et c'est très très important de savoir qu'un maçon, un carreleur, un couvreur, un chauffagiste, un électricien, ça existe, ça a du travail, parce qu'il faut quand même penser que ces élèves recherchent très vite du travail après, sont dans la vie active très rapidement, et ils ne pensent pas forcément à tout ça, parce qu'ils n'ont pas l'idée de penser à tout ça, parce qu'on ne leur montre pas tout ça, on ne leur fait pas découvrir. Et c'est vrai qu'à travers MAP, à travers les interventions de Françoise Deleulle, on en parle, on montre que c'est accessible, que c'est possible, que c'est noble. Et ça, c'est très bien. Il faut redonner de la noblesse à ces métiers. Et si on redonne de la noblesse à ces métiers, on redonne de la noblesse à ces élèves. Ça, c'est très important. Les élèves sont fiers de travailler. Il faut simplement trouver le bon travail pour le bon élève. Récemment, un de mes élèves a fait un stage dans les métiers du bâtiment, sur un petit chantier. C'est un élève qui était considéré comme difficile. Un élève d'origine serbe qui avait parfois un peu de mal à s'exprimer, qui sur le niveau de l'écrit n'était pas très très performant, mais sur le niveau technique et surtout professionnel, s'est avéré un élève courageux, performant, qui se levait à 5 heures du matin pour prendre le train et aller. Il a fait un stage de 2 semaines. Et il est arrivé au bout de ces 2 semaines en nous disant, vous voyez, j'y suis allé, c'était dur, monsieur, mais je l'ai fait. Et croyez-moi, c'est quand même une vraie réussite pour cet élève. Je vais citer un autre élève, ça ne concerne pas vraiment MAP, mais ça concerne les dispositifs relais. J'ai un élève qui a découvert la boulangerie. Cet élève venait d'un grand collège parisien et il avait des difficultés scolaires qui sont avérées ne pas en être, en fait. C'était des difficultés plutôt psychologiques. Et il a trouvé un stage dans la boulangerie. Donc, il a dû y aller le premier jour du stage. Il y est allé avec une angine, malade. Il s'est levé à 5 heures du matin. Il était devant la boulangerie à 7 heures et il a travaillé tous les jours. Et je lui ai dit, avec une angine, bon, tu peux prendre un certificat médical, téléphoner à ton patron et lui expliquer. Il m'a dit, non, monsieur, moi, je suis là pour travailler. Vous voyez, c'est ça les classes relais, ça veut dire que ça fonctionne quand même. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que des élèves qui, on va dire, ont des loupés dans certaines matières, se retrouvent tous à égalité devant ces maquettes. C'est-à-dire qu'on leur présente le matériau pour travailler, la peinture, les pinceaux, le polystyrène, la colle, ils sont tous à égalité et ils sont tous pressés de faire quelque chose de beau. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une petite fleur qui perce sous cette écorce rude.
Depuis 1992, la méthode pédagogique MAP remporte un succès croissant qui dépasse même nos frontières. Voici un exemple concret, en chair et en os, de ces bons résultats. Cet exemple porte même un nom. Richard Gruet, qui est chef de projet, économiste en construction au sein d'une importante compagnie. Nous l'écoutons.
À la base, j'ai fait des études pour être dans le bâtiment, hein. Donc tout ce qui est construction, les plans, le dessin, ça a toujours été, je pense, en moi, ça. Et après, effectivement, il y a eu une baisse de motivation à un certain stade de ma vie, suite effectivement peut-être à des décès dans la famille. Et après, je pense que le coup de pouce MAP, j'ai pu prendre conscience qu'il fallait persévérer dans ce métier. Ce métier, je le vis avec passion. J'ai l'opportunité d'avoir un travail qui me permet de vraiment de toucher tous les métiers du bâtiment, enfin les métiers en tant que maîtrise d'œuvre, tout le secteur du bâtiment, gros œuvre, de la charpente aux fondations. C'est ça qui est intéressant, voir différentes personnes qui travaillent sur le secteur du bâtiment. Donc c'est enrichissant.
La fondation HSBC pour l'éducation et Canal Academy vous ont proposé l'émission Point de mire sur l'association MAP et son projet du rêve à la réalité. Prise de son et montage, Jérôme Le Baron. Habillage musical, We Walk. Reportage, texte et réalisation, Virginia Crespo. Nous nous quittons dans un lieu de rêve imaginé en primaire, cette histoire élue par la jeune Eléa.
Une fois, j'ai décidé de faire une maquette de rêve. Un jour, j'ai construit des écoles, des maisons et puis j'ai fait des arbres. Un an plus tard, il y avait des habitants qui vivaient dans une belle maison. Peu après, les écoles sont toutes terminées. Tout autour de la ville, les enfants se promènent. Tous les gens de la ville sont très heureux d'avoir une belle maison. Il y avait un grand parc pour les personnes âgées et aussi pour les enfants. La plupart des gens commencent à travailler. Aussi, j'ai colorié les sols avec de la peinture. J'ai mis beaucoup de couleurs. Voilà mon histoire de rêve.